Aujourd'hui, la science infirme le scénario évolutionniste, qui veut que la vie prenne accidentellement naissance de la matière inerte. Il suffit par ailleurs d'observer la nature, pour se rendre compte qu'il n'existe aucun mécanisme qui suive ce supposé processus d'évolution. Pas un seul mécanisme naturel ne transforme une simple cellule en une créature vivante complexe et se perpétue jusqu'à devenir l'ancêtre commun de plusieurs millions d'espèces vivantes différentes. Darwin étaya son mécanisme évolutionniste d'un concept unique, la sélection naturelle. Le titre complet de son livre souligne clairement l'importance qu'il y accordait au sein du mécanisme. L'origine des espèces par voie de sélection naturelle. Cette sélection naturelle repose sur l'idée selon laquelle seuls les individus forts et bien adaptés à leur habitat survivent. Par exemple, dans un troupeau de cerfs menacés par les prédateurs, seuls les plus rapides pourront survivre. Au bout de quelque temps, le troupeau sera uniquement constitué d'éléments forts puisque les plus faibles et les plus lents auront été les proies des carnassiers. Ce mécanisme ne fait cependant pas évoluer le cerf dans la mesure où il ne le transforme pas en un animal d'une autre espèce, comme le cheval par exemple. De fait, la sélection naturelle élimine seulement les individus faibles, infirmes et malades et assure à l'espèce la continuité et la santé, mais en aucun cas elle n'a le pouvoir de la faire évoluer. Darwin, conscient de cette faiblesse, ajoute à ce propos dans son ouvrage. La sélection naturelle ne peut rien sans des variations favorables fortuites. Darwin s'inspira largement de l'un de ses contemporains, le biologiste français Lamarck, pour traiter de l'émergence des traits favorables. Lamarck soutenait en effet que les êtres vivants transmettaient leurs acquis aux générations suivantes. Donc, d'après Lamarck, les girafes descendaient des cerfs car au fil des générations, elles devaient tendre le cou de plus en plus haut pour se nourrir et atteindre les branches de plus en plus élevées. Lamarck était également persuadé que si on coupait les bras des membres d'une même famille sur plusieurs générations, au bout d'un moment, des bébés allaient finir par naître sans bras. Influencé par ces exemples, Darwin, plus audacieux, affirma dans son ouvrage que certains ours, à force de chasser dans l'eau, étaient devenus des baleines. Lamarck et Darwin avaient tous deux tort. Leurs idées étaient parfaitement contraires aux lois fondamentales de la biologie. À leur époque, la génétique, la microbiologie et la biochimie n'existaient pas en tant que branche scientifique. Les lois de l'hérédité n'étaient pas non plus connues. C'est pourquoi Lamarck et Darwin pensaient que les traits héréditaires se transmettaient par le sang. En raison du niveau scientifique limité de l'époque, on ne s'étonna pas du tout des thèses de Darwin. Elles eurent d'ailleurs un impact important dans les cercles scientifiques. Néanmoins, Darwin, inquiet, écrivit dans le chapitre « Difficultés sur la théorie » Si on venait à démontrer l'existence des organes complexes en dehors de toute modification successive, ma théorie s'écroulerait complètement. Les craintes de Darwin étaient fondées, car peu après sa mort, Gregor Mendel, un botaniste autrichien, découvrit les lois de l'hérédité qui infirmèrent les affirmations de Lamarck et Darwin. De plus, le développement de la génétique au début du XXe siècle a prouvé que seuls les gènes étaient transmis aux générations suivantes, et non les traits physiques acquis. L'accumulation de traits acquis au fil des générations et la transformation des espèces n'étaient donc plus plausibles. En d'autres termes, Les variations héréditaires auxquelles Darwin associe la sélection naturelle n'existaient pas. La théorie de l'évolution selon Darwin s'effondra au début du XXe siècle. Les efforts des autres évolutionnistes du XXe siècle vinrent confirmer que la sélection naturelle ne contribuait aucunement à faire évoluer la créature. Le célèbre évolutionniste et paléontologue anglais Colin Paterson l'admit clairement en disant « Personne n'a jamais produit une espèce par les mécanismes de la sélection naturelle. Personne ne s'en est jamais approché. La plupart des interrogations du néo-darwinisme tournent autour de cette question. » La science du XXe siècle a également dévoilé que des systèmes et des organismes extrêmement compliqués, ainsi que des mécanismes complexes, régissent la vie des êtres. En l'absence d'un seul composant, ces systèmes ne fonctionnent pas. Cette caractéristique, connue sous le terme de complexité irréductible de la vie, prouve que ces structures sont nécessairement nées en un seul et même ensemble. Ce fait abolit définitivement l'affirmation évolutionniste selon laquelle les êtres vivants ont évolué progressivement par voie de sélection naturelle et de modification mineure. Puisque la sélection naturelle ne permet pas l'évolution, les évolutionnistes durent opérer un changement fondamental dans leur théorie. Aussi, intégrèrent-ils un nouveau concept à la sélection naturelle appelé la mutation. Les mutations correspondent aux altérations ou distorsions de l'ADN des êtres vivants. Elles résultent principalement d'effets externes, tels qu'une radiation ou une réaction chimique. La théorie de l'évolution soutient aujourd'hui que les êtres vivants se distinguent les uns des autres et se développent suite à des mutations. C'est faux, car les mutations endommagent l'information inscrite dans l'ADN. À ce jour, aucune mutation bénéfique n'a été observée ni dans la nature ni dans les laboratoires. Puisque les mutations n'ajoutent rien à l'information génétique, il est impossible que les êtres acquièrent de nouveaux organes par ce biais. Un reptile n'aura jamais d'ailes et une créature qui n'a pas d'yeux ne pourra jamais en posséder. Pendant des décennies, les évolutionnistes assujettirent des êtres aux effets de la radiation et aux produits chimiques dans le but d'obtenir des mutations favorables. Ils n'obtinrent que des créatures infirmes, déficientes ou stériles. Des expériences innombrables effectuées sur des mouches ont montré que les effets des mutations sont destructeurs, voire fatales et en aucune façon bénéfiques. Les mutations brisent en effet le code parfait d'ADN d'un être vivant et font de lui un monstre de la nature. C'est pourquoi le professeur Richard Dawkins, l'un des défenseurs les plus connus de la théorie de l'évolution aujourd'hui, hésite à répondre quand on lui demande un seul exemple de mutation qui accroît l'information génétique. Professeur Dawkins, pouvez-vous nous donner un exemple de mutation génétique ou de processus évolutionniste où l'information du génome a été augmentée ? La vérité est percutante. La vie suit un schéma si complexe qu'elle n'est pas le fruit du hasard. On ne fait pas une montre mécanique en assemblant aveuglément des engrenages. Seul un habile horloger peut la fabriquer. De même, la vie incarne-t-elle une conception supérieure qui prouve l'existence d'un créateur qui l'a créée à partir de rien ?